France Culture.
Au début, il n'y avait rien.
À la fin non plus.
Elle se donne un dernier coup de peigne, rapide et précis, pour faire tomber la mèche juste devant son œil droit, fabriqué à Sanford, en Caroline du Nord. Puis elle recule d'un pas et observe le résultat dans la glace. Son regard est de face, mais son visage est légèrement tourné vers la gauche. 5-6 degrés, pas davantage, c'est le meilleur angle. Lorsqu'on lui adresse la parole, c'est son buste tout entier qui pivote vers l'interlocuteur, et non sa tête seule, comme si elle portait une Minerve autour du cou. C'est le surnom que ses collègues lui donnent en douce. Minerve. Elle le sait. Elle préfère ça à Cyclope. Sa mèche tombe pile à la lisière des cils. Elle la taille régulièrement. L'oculariste de Sanford travaille à l'ancienne. Il est l'un des derniers du pays à utiliser du verre. Au fil du temps, elle a testé différentes matières, plastique, résine, aucune ne lui convenait. Cela lui provoquait gênes et irritations. Au fond, elle trouve le verre plus noble que tous ses produits de synthèse. Elle y est revenue. C'est plus cher, mais elle n'a pas d'autre luxe. Son iris est peint à la main. Peut-être qu'il n'y verra que du feu. Le grand feu, celui qui la consume. Et le reste, qu'en fait-elle? Il n'existe guère de subterfuge pour cacher ses hanches, son ventre, ses cuisses. Trop vaste, tout ça. Trop large, ça déborde. Mais elle n'est pas grosse, non, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'elle soit grosse. On ne peut pas dire non plus qu'elle soit pleine de grâce. Peut-être qu'il aime les femmes rondes. Peut-être qu'il les aime obèses. Tout se trouve dans la nature humaine.
Ça va pas, ça.
Ses seins sont beaux. Ce sont des fruits mûrs à point. Leur taille est idéale, leur volume et leur galbe parfaits. Ses seins sont somptueux. Parfois, elle les prend dans ses mains, et c'est une sensation très agréable que de s'en remplir le creux des paumes, de les soulever doucement, comme pour les soupeser, comme pour les offrir. Dans ces moments-là, elle ferme les yeux, et il lui arrive d'oublier le reste. Elle parvient même à oublier que ce sont ses propres mains. Seuls ses seins peuvent la sauver. Elle a mis ce soir un pull mauve, très échancré, sans rien dessous. Peut-être qu'il la trouvera jolie, sexy. Elle se dirige vers la porte d'entrée en éteignant toutes les lumières sur son passage. Dans le vestibule, elle vérifie à nouveau le contenu de son sac. Puis elle prend les clés et décroche son manteau et sort.
La neige recouvrait le jardin.
Il y avait un grand ciel bleu.
Et un petit bout de chemin.
On pouvait marcher à deux.
On dit que Minerve est la déesse de la sagesse et de la fureur guerrière, de la stratégie et de l'intelligence. Tout cela à la fois. On dit que Minerve est restée vierge toute sa vie.
I stumbled in the darkness, I'm lost and alone.
Fanny et Freddy, de Marcus Malt. Réalisation, Baptiste Guiton.
Show the way back home. Is there a light?
À la sortie de Bayonne, New Jersey, des flocons se mettent à tomber. Ils s'écrasent sur le pare-brise comme des fientes de mouettes. Elle actionne les essuie-glaces, monte le chauffage pour chasser la buée. Sa voiture est une Toyota Corolla, de 10 ans d'âge. Elle traverse Jersey City, elle traverse l'Hudson, puis elle roule vers le bas de Manhattan. Elle s'enfonce dans les rues de New York comme un bathyscaphe dans les abysses. Le trajet dure une quarantaine de minutes, au terme duquel elle pénètre dans un parking couvert au 45 Wall Street. Elle monte jusqu'au 6e niveau, le dernier, et parcourt les allées au ralenti jusqu'à ce qu'elle ait repéré ce qu'elle cherche, un coupé Mercedes gris métallisé. Elle en vérifie la plaque, puis s'arrête en double file devant le capot de la Mercedes. Elle jette un regard panoramique à travers le pare-brise. Le parking est désert. Il faut qu'il le reste. Il faut que la chance, pour une fois, soit de son côté. Elle saisit son sac et s'extrait de la voiture. Elle ouvre son coffre. Il y a un vieux plaid à carreaux étalé au fond. Le coffre est vide, hormis un cric qui n'a jamais servi, qu'elle prend et pose sur le sol près de la roue arrière droite. Le métal est glacé et elle se dit qu'elle aurait dû enfiler des gants. Elle met son sac à la place du cric et l'ouvre en tirant sur la fermeture éclair. Puis plus rien. Elle attend. Les néons diffusent une lueur crue et un infime bourdonnement. Il faut que la chance, le destin, la vie lui sourie.
C'est à vous ?
Elle se redresse et le regarde. Trench coat en gabardine noire, ouvert sur un costume anthracite, sans cravate, sur mesure. Il porte ses vêtements avec naturel et décontraction, comme s'il les portait déjà dans le ventre de sa maman. Elle n'a que 3 ans de plus que lui, mais il en paraît 10 de moins.
Oui.
Une besace en cuir élimé pend en bandoulière sur son flanc, accentuant son air juvénile, post-adolescent. La petite touche rebelle, cool. C'est le message. On peut être jeune et relax, même avec un portefeuille de 2 milliards de dollars. Il tient un BlackBerry dans la main droite, pointé nonchalamment sur la Toyota.
Vous pourriez avancer un peu, que je puisse sortir ?
Oui, bien sûr, désolé.
Elle retourne vers l'avant de son véhicule, mais ralentit à mi-parcours, hésite. Elle s'adresse à lui par-dessus le toit. Il ne la regarde pas. Il est occupé à taper sur le clavier de son téléphone.
Excusez-moi, avant que je déplace la voiture, vous pourriez m'aider à sortir la roue de secours ?
Il relève les yeux et la considère un instant par en dessous. Il a l'air de se demander si elle plaisante. Son pouce est resté en suspens au-dessus d'une touche. Face à ce regard, elle doute soudain d'avoir adopté le meilleur angle. Elle fait pivoter imperceptiblement son visage vers la gauche. 1 ou 2 degrés.
C'est trop lourd pour moi.
Il ne répond pas. Son pouce s'abat d'un coup, enfonçant la touche du mobile, comme s'il s'agissait de déclencher un tir de missile sur un bastion ennemi. Après quoi, il glisse l'objet dans une poche intérieure.
Elle est où ?
Là, dans le coffre.
Sous la couverture ?
Ouais.
Et tandis qu'il commence à écarter le plaid sur le plancher du coffre, elle plonge une main dans la poche de son propre manteau et en retire un poing électrique acheté en ligne sur un site d'autodéfense. Un choqueur d'une puissance de 900 000 volts. Il y a une mince bande de chair apparente sur la nuque du jeune homme, entre le col et la naissance des cheveux. C'est à cet endroit qu'elle choisit d'appliquer les électrodes. À bout touchant, sur la peau nue, elle balance le jus. L'arc lumineux est d'une blancheur intense. Le jeune homme rue et se cabre. Le haut de son crâne heurte violemment le battant. Il s'affaisse et elle le rattrape de justesse, le sein de ses 2 bras, et pèse de tout son poids pour guider sa chute vers l'intérieur du coffre. Le jeune homme n'est plus cool, il est sonné, vautré en position de fœtus,
la face contre le plancher. L'un après l'autre, elle lui ramène les bras dans le dos, puis elle fouille à tâtons dans son sac et y pioche une paire de menottes achetées en ligne sur un site d'accessoires érotiques, avec laquelle elle lui enserre les poignets. Après quoi, elle extrait de son fourre-tout un étui à stylo en métal. L'étui contient une seringue couchée sur un lit de coton, et la seringue contient une dose de liquide transparent. Elle cherche et trouve une veine dans le cou de l'homme et y plante l'aiguille et presse le piston jusqu'au bout.
L'antique mélancolie nous gagne et nous rejouons. La chanson des morts, celle qui partout nous accompagne.
Elle sort de New York par l'Interstate 95 et entre à nouveau dans le New Jersey. Il ne neige plus. Elle conduit sans forcer l'allure, prenant garde de respecter les limitations. Quelquefois, l'éclat d'un phare se reflète sur le verre de son œil droit. Mais elle ne le sent pas. Il est 20h42 à l'horloge de bord quand elle franchit la frontière de l'État de Pennsylvanie. Une vingtaine de kilomètres plus loin, elle fait son entrée dans Bethléem, comté de Northampton. 70 000 âmes, sans compter les pèlerins et les touristes. Elle ne peut s'empêcher de faire un détour par le centre pour le plaisir des yeux. Les décorations, les illuminations, les ors des vitrines qui débordent et luisent sur l'asphalte humide. C'est Noël à Bethléem. Dans le vieux quartier historique, on devine la flamme d'une chandelle derrière chaque fenêtre. Malgré le froid, les gens sont dehors. Bienvenue à Christmas City. Depuis 1937, c'est le surnom officiel de la ville. Dans deux jours, le Sauveur renaîtra, ici plus qu'ailleurs. Mais elle ne fait que passer.
Brise légère soulève l'aile du souvenir. Qui sait combien de temps encore nous pourrons dire
Une journée s'achève.
Une à une, les étoiles s'éteignent dans son rétroviseur. Le noir revient. Les rues se vident à mesure qu'elle s'éloigne du centre. En traversant le pont de la Lehigh River, elle bascule dans l'autre monde, le sien. Des plaques de neige sales s'accrochent aux berges de la rivière comme de vieux fantômes refusant d'être emportés. Elle frissonne. La température a baissé. Et ce n'est pas qu'une impression. Dans ce quartier, l'hiver est plus rude et plus long. L'obscurité plus profonde. Elle longe à présent une rue où toutes les maisons se touchent et se ressemblent. La seule chose qui les distingue est un écriteau à vendre, à l'angle de certaines d'entre elles. Elle en compte 5 avant de tourner dans une petite allée qui la mène jusqu'au portail blanc d'un garage. En descendant de la Toyota, son premier réflexe, comme à chaque fois, est de porter le regard vers l'est. À quelques centaines de mètres, se dressent les carcasses des hauts fourneaux morts.
Nous ne vîmes aucune lumière,
mais nous entrâmes
quand même.
Et c'est ainsi
presque à tâtons que nous découvrîmes
un bien étrange
phalanstère.
Il se réveille assis sur une chaise au milieu de la cuisine. Sa tête bâle au bout de son cou, le haut de son corps flanche. Il tomberait en avant si ses poignets menottés et passés derrière le dossier ne le retenaient pas. Un filet de salive brille au coin de ses lèvres. Elle allonge le bras et l'essuie avec sa manche. Il sursaute. et rejette brusquement la tête en arrière.
Qu'est-ce qui se passe? On est où, là? Qu'est-ce que vous me voulez?
Mal au cœur? Nausée?
Vous êtes qui, putain? Vous voulez quoi?
Pas de sensation de vertige?
Si c'est de l'argent que vous voulez, j'en ai pas. Pas sur moi. Je vous jure que c'est vrai, mais on peut trouver
pas
un moyen...
Pas de migraine, non plus? C'est l'avantage avec le Propofol. Les effets secondaires sont nuls. C'est pas comme le coup de foudre.
Elle esquisse un sourire, mais le jeune homme ne le lui rend pas. Cela fait maintenant plus d'une minute qu'elle est penchée ainsi. Ses seins sont presque à découvert, mais il ne les a pas regardés une seule fois. Il ne regarde que ses yeux. Son œil. Sur la table, à côté de son sac, est posé un petit revolver à canon court, Smith & Wesson. Elle s'en empare.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Elle tire une chaise et la place face à lui, à un mètre de distance. Elle se rassoit. Puis elle se penche à nouveau, les coudes sur les cuisses. Vue plongeante sur son décolleté. Deuxième chance.
Imagine que ce soit vraiment pour l'argent. Imagine que tu sois agressé par un voyou, un sale junkie, en manque, prêt à tout pour se payer sa dose. Il t'arrache ta carte de crédit, il te menace pour que tu lui donnes le code. Il est armé. Il a un pistolet et il te tire une balle dans le genou pour que tu parles, pour que tu lui craches ce foutu code. Ta rotule explose, puis l'autre.
Il ne profite pas de la vue, c'est une évidence. Elle lui offre ce qu'elle a de plus beau, mais ce n'est pas encore assez beau pour lui. Cela ne vaut même pas un coup d'œil. Elle sait parfaitement lire dans les yeux, et dans les siens, elle ne distingue qu'incompréhension et frayeur. Pas le moindre soupçon, pas la plus petite étincelle de désir.
Qu'est-ce qui se passe après? Je veux dire, longtemps après. Dans l'avenir. Imagine. T'as perdu tes deux jambes. Tu peux plus marcher. Cloué dans un fauteuil jusqu'à la fin de tes jours. C'est terrible, mais... c'est des choses qui arrivent, hélas. Faut que tu gardes bien ça à l'esprit. Tu dois pas l'oublier. Tu comprends?
Non. Non, je comprends pas, mon Dieu! Je comprends rien du tout!
Elle se penche un degré de plus, au point qu'elle sent ses mamelons frotter contre le liseré du pull, à l'extrême limite d'en déborder.
Qui voudra encore de toi? Un infirme? Un paraplégique? Qui saura prendre soin de toi? C'est une lourde tâche, tu sais? C'est l'affaire de toute une vie. Qui pourra y consacrer la sienne? Qui aura assez d'amour et d'abnégation pour ça? Pour se sacrifier, dis-moi, qui?
Elle aimerait tant entendre la réponse de sa bouche. Elle lui accorde quelques secondes, suspendue à ses lèvres. Elle a les yeux qui brillent. Les deux.
Moi.
Laissez-moi. Laissez-moi! Relâchez-moi! Laissez-moi partir!
Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que j'en suis pas capable, c'est ça? Je suis infirmière. Infirmière diplômée, 10 ans d'expérience à l'hôpital. Les malades, je sais ce que c'est. J'en ai vu de toutes sortes. Tous les jours, j'en vois. Je les soigne. Je les soulage de mon mieux. Je les accompagne, les malades. Voilà ce que je fais. Qu'est-ce que tu crois? Personne ne m'oblige à le faire. Je l'ai choisi. C'est une vocation. Pour autant, est-ce que ça veut dire que c'est facile? Non. Rien n'est facile. Tu n'as pas idée de la patience, du courage qu'il faut. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, le don de soi. On donne, et voilà ce qu'on reçoit en échange. Qu'est-ce qu'il nous renvoie? C'est pas de la gratitude qu'on attend, seulement un minimum de respect, juste ça, du respect. C'est ça que vous n'êtes pas fichu d'avoir pour la plupart. C'est ça qui nous manque le plus, tu comprends ça? Hein? Est-ce que tu peux comprendre?
Oui, je m'excuse, je suis désolé, je voulais pas...
Tais-toi! Écoute, t'entends? Non. Rien.
L'écume ronge. La mer use. Et l'enfant n'est pas celui qu'on attendait.
Quand j'étais gamine, on l'entendait d'ici. Ça cognait sans arrêt, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Comme un cœur.
cœur énorme. Monstrueux, tous les gamins pouvaient l'entendre à des kilomètres à la ronde. Moi, ça me faisait peur. Pourtant, je savais ce que c'était. Mon père me l'avait dit. Il m'avait expliqué, ce n'était pas un monstre, c'était le marteau de la Syrie. Un gigantesque marteau pilon à vapeur. C'était juste une machine. J'avais beau savoir, ça me faisait peur quand même. Le soir, ça m'empêchait de dormir, je pleurais. Alors mon père venait me voir. Il entrait dans ma chambre, il s'asseyait sur mon lit, il me caressait doucement la figure. Pour me rassurer, il me disait qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Et il disait qu'il ne fallait pas avoir peur du bruit, au contraire. Il disait que c'était une bonne chose pour nous, que c'était bon signe. Il disait, c'est quand tu l'entendras plus que tu devras pleurer. Je comprenais pas pourquoi. Mais après, j'ai compris, il avait raison, ah, bien sûr. C'est comme ça, le cœur. Quand il cesse de battre, on meurt. Bethlehem Steel Corporation, tu connais? Je parie que non. Je parie que t'en as même jamais entendu parler. T'es tellement loin de ça, toi. Mon père, il travaillait. À peu près tous les hommes du coin, ils travaillaient. Jusqu'à 30 000 personnes les meilleures années, tous. Ils allaient nourrir la machine. Des générations entières, les suivantes. On entrait à 16 ans, 18 ans. On leur sortait quand c'était la fin, quand on n'avait plus rien à lui donner. Vide. Les pères se retiraient, les fils prenaient la relève. Et ça tournait, sans relâche. Il m'y avait emmené une fois, pour voir. J'avais une dizaine d'années. Il m'a fait visiter l'intérieur. Il m'a montré les ateliers, les forges. Incroyable. Imagine le cratère d'un volcan. Les flammes qui jaillissent de la fosse, la fumée partout, de la vapeur blanche, grise, noire, les étincelles qui giclent de tous les côtés, la chaleur. Une chaleur à faire fondre la peau. Et le bruit. On aurait dit le rugissement de 1000 cascades en même temps. Puis la lave rouge qui bouillonne, le métal en fusion qui rentre dans les rigoles, juste là, à tes pieds, imagine. L'enfer. Les entrailles de l'enfer. Mais tu sais à quoi j'ai pensé, moi? À des dragons. Une armée de dragons en colère qui crachent du feu. Et eux, ils étaient les chevaliers. Tous ces hommes, avec leurs casques et leurs combinaisons, ils étaient des chevaliers en armure. Et ils devaient combattre les dragons. Ils devaient les dompter. Ils devaient les apprivoiser. Et je me souviens, ça sentait les œufs frits.
Aucun souvenir n'est parfait.
Plus tard,
on convient que nos îles
n'ont jamais existé.
Elle bat des cils, une fois, une seule.
C'était l'enfer.
Et le temps de ce gracile battement.
Mais c'était leur job.
Elle est presque belle.
C'était leur vie. Ils en étaient fiers. La Bethlehem Steel était la deuxième entreprise de sidérurgie la plus importante du pays. Les hommes dont je te parle ont forgé le fer et l'acier qui servaient à la construction des plus gros navires, des plus grands ponts, des plus hautes tours que tu puisses imaginer. Le Golden Gate Bridge, c'est eux. Le Chrysler Building, c'est eux. La Bank of Manhattan Tower, c'est eux. Les trois quarts des gratte-ciels de New York, des tas d'autres, c'est à eux qu'on le doit. Tu pouvais rêver n'importe quoi, tu pouvais avoir les rêves les plus fous, ils étaient capables de les réaliser. Sais-tu comment on les appelle parfois ? On les appelle les hommes qui ont bâti l'Amérique. C'est écrit dans les livres et c'est vrai. C'est ce qu'ils étaient. Et mon père était l'un d'eux. Mon papa était dompteur de dragons.
Elle tend soudain le bras et pointe le canon du revolver sur lui.
Et toi ? Qui es-tu, toi ? Es-tu un homme qui bâtit l'Amérique ? Es-tu un homme qui l'a détruit ?
À cet instant, il n'y a pas la moindre différence entre sa pupille morte et le noir orifice du Smith & Wesson. C'est un seul et même vide. C'est un abîme béant dans lequel, le temps d'une fulgurante fraction de seconde de lucidité, le jeune homme entrevoit sa chute et sa fin.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Viens, je vais te présenter à mes parents.
Les enfants de l'aube
ont des bras maigres
qu'ils étirent au ciel
aussitôt
qu'ils s'éveillent,
tout étonnés
un court instant que rien ne leur revienne,
un instant seulement. Ensuite, ils se souviennent.
Premier étage, 17 marches. Il fait l'ascension en tête, s'arrêtant et posant les deux pieds sur chaque degré, ses genoux prêts de le lâcher à tout instant. Il ne peut céder de la rampe, ses mains sont toujours emprisonnées. Il a chaud en surface et froid à l'intérieur. Il a peur de s'effondrer, de ce qu'il attend, de ce qui est devant lui et de ce qui est derrière. Dans l'air planent à présent des relents de quelque chose qui se situe entre le gaz et le moisi. Ça vient par bouffée, ça repart.
À droite.
Où on va? Où est-ce que vous m'emmenez?
Elle ne répond pas. De la main armée du revolver, elle lui fait signe de continuer. Il y a trois portes, une de chaque côté du couloir, une au fond, en face. Toutes sont fermées.
Stop, c'est là.
Il amorce un mouvement de recul, mais elle est déjà dans son dos. Il sent l'acier du canon planté au creux de ses reins.
Entre, je t'en prie.
Et c'est comme s'il franchissait un invisible sas. Dès qu'il pénètre dans la chambre, la pestilence le submerge. Une nappe lourde, dense, délétère. Sa gorge se serre, son estomac se soulève. Puis il tourne la tête vers le lit et il voit. Et le choc qu'il reçoit le plie en deux.
Les enfants de l'aube, les vieux et abominables enfants de l'aube, ont perdu leur mère durant la nuit, et leurs dents,
et le reste aussi.
Ses jambes cèdent pour de bon. Il tombe à genoux. Les larmes jaillissent d'un coup, en même temps qu'un unique flot de bile. Elle se tient debout à côté de lui. Après un instant d'hésitation, elle pose une main sur son crâne, en douceur. Elle le caresse. Il ne réagit pas, ne la repousse pas. C'est une petite victoire pour elle. C'est un peu de réconfort. La pièce est beaucoup plus froide que le reste de la maison. Il y a plus d'un mois qu'elle en a éteint le chauffage. C'est la raison pour laquelle les corps sont mieux conservés qu'ils ne devraient l'être. Du moins, est-ce le constat que l'on peut faire pour celui de l'homme, son père? Car de la femme, sa mère, on ne distingue pas grand-chose, sinon une main dépassant de la manche d'une chemise de nuit en coton. Le reste est enfoui sous un gros édredon blanc à motif de rose brodée. Le visage même est caché par un oreiller dont la taie présente d'identiques ornements. Sur le fond blanc de la taie s'étale une corolle de sang maintenant sec et noirâtre, où butine en solitaire une énorme mouche bleue. La balle a été tirée à travers l'épaisseur de l'oreiller. Ce qui n'a guère eu d'incidence sur sa vitesse, ni sur sa trajectoire. On peut penser que la femme dormait. Elle n'a rien vu venir. On peut penser qu'elle n'a pas souffert. Selon toute probabilité, l'oreiller est celui de son mari. Ce dernier en est dépourvu. Il repose de son côté du lit, le crâne à plat sur les draps. Il en manque une partie du crâne, que l'on retrouve éparpillé en divers éclats et fragments, sur le montant, sur la cloison, sur l'abat-jour de la lampe, même sur l'un des verres de ses lunettes, posés sur la table de nuit.
Dans nos tiroirs, fonds secrets, gisent parmi les factures et les notes de frais, des confettis, des bouts de rien de toutes sortes, et nos amours. Qui sont demeurés lettres mortes.
Le grand patron s'appelait Eugene Grace. C'est un beau nom, je trouve. Grace, le roi de l'acier. Il s'est fait construire un manoir sur Prospect Avenue, il existe encore. Une sorte de palais avec un terrain de golf, une salle de bal, une salle de jeu. Et 23 chambres et 15 salles de bain. Le week-end, on y donnait des grandes réceptions avec de nombreux invités, des vedettes du spectacle, du cinéma, des hommes politiques, des célébrités. Tu te souviens de Fred Astaire?
C'est un habitué. Et Bing Crosby aussi. Bing Crosby était un ami personnel de la famille Grace. Il venait souvent chanter pour eux en privé. On avait une voisine, la vieille Miss Tweedy. Elle avait été employée au manoir comme domestique. C'est elle qui nous racontait tout ça, les fêtes, l'orchestre. Les messieurs en smoking, les dames en robe de soirée, les couverts en argent, les verres en cristal. Les énormes corbeilles de fleurs fraîches qu'on changeait chaque jour, toutes ces choses. Ma mère, ça la faisait rêver. Elle voulait qu'on lui raconte encore et Miss Tweedy ne se faisait pas prier. Pour sûr, elle disait. C'était la belle époque. Pour sûr. 10, 15, 20 000 chevaliers acculés dans les soutes de l'enfer. À lutter nuit et jour contre les dragons. Pendant qu'au château, le seigneur et sa cour dînaient des plats les plus raffinés. Et dansaient sous les lustres. La belle époque. Eugène Grace, directeur de la Bethlehem Steel Corporation, le grand, le très, très grand patron. En 1929, il était le dirigeant le mieux payé du pays. $1,600,000 de bonus. En plus de ses $12,000 de salaire fixe. Ma mère avait de quoi rêver. Son propre père travaillait à la scierie pour moins de 40 cents de l'heure. $18 par semaine. La foutue belle époque. C'était le temps de la Grande Dépression. Il y avait des gens qui bouffaient le cuir de leurs chaussures. Et M. Grace se faisait livrer des barils d'huîtres fraîches. Venus tout spécialement du Maine. Pour l'apéritif. Il paraît que ce sont les meilleurs. Celles du Maine. Tu savais ça? Monsieur Grace en raffolait.
Ils sont retournés dans la cuisine. Ils ont repris leurs places respectives. Mais qu'on ne s'y fie pas. Rien n'est comme avant. Le jeune homme cuve ses émotions. Sa tête pend. Son menton frôle sa poitrine. Ses paupières sont ourlées de rose. Et son regard perdu.
Vous les avez tués?
Quoi?
Vous avez tué ces gens?
C'est ça que tu crois?
Minuit va bientôt sonner. À la Central Moravian Church de Bethlehem. Dans 24 heures, il renaîtra. Foutaise. Les morts sont morts, et les mouches les dévorent. Elle a appris à ne plus croire que ce qu'elle voit.
Tu penses que j'aurais pu faire ça à mes parents? À mon père et à ma mère? Mais pour qui tu me prends? Ce n'est pas moi, non. C'est toi. C'est toi qui les as tués.
Moi?
Toi et tes semblables. C'est vous. C'est votre œuvre, à vous.
Mais qu'est-ce que vous racontez, vous?
Tu ne m'écoutes pas! De quoi je te parle depuis tout à l'heure?
Mais qu'est-ce que ça a à voir? Vous me parlez de je sais pas qui, là, un type que je connais pas. Vous me parlez d'un manoir et de Fred Astaire. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans?
C'est la même histoire. C'est toujours la putain de même histoire.
Elle se relève et se met à arpenter la pièce à courtes et vives enjambées, entre la table, l'évier, la gazinière, marquant la cadence à petits coups de revolver contre sa cuisse.
Je te parle de ceux qui ont l'argent et le pouvoir, les tout-puissants, ceux qui ont atteint les sommets de ce qu'on appelle la réussite, ceux qui sont au-dessus de tout. Mais comment ont-ils fait pour en arriver là? Comment ont-ils fait pour arriver là-haut, si haut? En écrasant les autres? C'est comme ça qu'ils font. Ils les piétinent, ils leur marchent sur la tête, ils leur passent sur le corps et les cadavres s'accumulent. Sous eux, des tas et des tas sur lesquels ils continuent de grimper. Grimper, grimper, grimper. Non, tu peux être sûr que plus ils s'approchent du ciel, plus ils ont mort sous leur godasse. Hier, c'était Eugène Grace. Aujourd'hui, ils portent d'autres noms. Hier, ils dirigeaient des usines. Aujourd'hui, ils gèrent des banques ou des compagnies d'assurance ou des fonds d'investissement. Mais qu'est-ce qui a changé en réalité? Rien. Rien de rien. C'est la même histoire. C'est de toi que je parle.
J'ai jamais écrasé personne. Tout ce que je possède, je l'ai gagné en travaillant. J'ai travaillé dur pour l'avoir.
Mon père m'a téléphoné ce soir-là. Vers les 9h. 9h. Le 9 novembre. C'est rare qu'il m'appelle. Ma mère. Oui, on se téléphonait régulièrement. 2-3 fois par semaine, mais avec mon père quasiment jamais. C'était pas son truc, le téléphone. Ça m'a un peu surprise au départ d'entendre sa voix à lui, mais... Sans plus, je peux pas dire que je me sois inquiétée. Quand j'ai demandé s'il pouvait me passer un peu maman, il m'a dit qu'elle était déjà au lit. Ça m'a pas étonnée, maman a toujours été une couche tôt, couchée tôt, levée tôt. Je lui ai dit de pas la déranger, que je la rappellerai une autre fois. Et avant de raccrocher, il a dit que ça lui avait fait du bien de m'entendre. Et il a dit, fais attention à toi. Je suis à peu près certaine que ça a été ses dernières paroles. Fais attention à toi.
Pourquoi vous me racontez ça?
Ce coup de fil, ça me trottait dans la tête. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pu rappeler mes parents le lendemain, je travaillais toute la journée. Je les ai rappelés 2 jours plus tard, mais ils ont pas répondu. Et j'ai essayé plusieurs fois, pas de réponse. J'ai attendu jusqu'au soir, à l'heure du dîner. Et comme ils décrochaient toujours pas, j'ai commencé à me faire du mauvais sens. C'est pas normal. Ils sortaient jamais, ils allaient jamais nulle part. Je me disais que il était peut-être arrivé quelque chose à l'un ou à l'autre, un accident ou ce genre de choses. Peut-être qu'ils avaient dû filer en urgence à l'hôpital et qu'ils avaient pas réussi à me joindre pour me prévenir. Alors j'ai pris la voiture et je suis venue jusqu'ici pour voir. Je les ai trouvés là-haut dans leur chambre. Exactement tels que tu les as vus.
Je suis désolée.
Tu te rappelles, toi? Ce que tu faisais le soir du 9 novembre dernier?
Non, bien sûr que non. Comment voulez-vous que je me rappelle?
C'était un mardi. Tu devais déjà avoir terminé ta séance de fitness à l'Equinox. Peut-être que t'étais en train de dîner avec quelques amis au Mercer Kitchen ou peut-être que tu prenais simplement un verre au lounge du Skyroom, Times Square, 40e rue, 33e étage.
Comment vous savez? Comment vous... Vous m'avez suivi? Vous m'avez espionné, c'est ça? Putain, c'est pas vrai!
C'est ce soir-là que ça s'est passé, le soir du coup de fil. J'en suis sûre et certaine. Mais il y a quelque chose que j'arrête pas de me demander. Est-ce que mon père avait déjà... Est-ce qu'il avait déjà tiré sur maman avant de m'appeler? Est-ce qu'elle était déjà morte, là-haut, dans son lit, pendant qu'on parlait au téléphone? Ou bien, est-ce que c'était pas encore fait? Est-ce que j'aurais pu dire quelque chose à mon père qui l'aurait empêché de le faire? Est-ce que j'aurais dû deviner et le convaincre avant qu'il soit trop tard?
Écoutez, madame, ce qui s'est passé, c'est terrible. C'est un drame. Encore une fois, je suis désolé pour vos parents. Mais vous y êtes pour rien. J'ai bien compris que vous y étiez pour rien. Et moi non plus, j'y suis pour rien. C'est la faute de personne. Si je peux vous aider, si je peux faire quelque chose pour vous, je le ferai. Je vous le promets, dites-moi quoi et je le ferai.
Le madame lui a fait mal, mais elle n'en a rien montré. Impassible jusqu'au bout des cils. Il ne l'a même pas fait exprès. Gentil petit fils de pute.
Je t'aime.
Quoi?
Mon père me l'avait jamais dit, mais il l'a écrit. Il y avait un mot pour moi sur la commode. Une feuille de cahier pliée en deux, avec mon prénom dessus. Je l'ai déplié, j'ai lu. Fanny chérie, je le fais parce que c'est tout ce qui m'est encore possible de faire. J'espère que tu comprendras, que tu pourras me pardonner. Je t'aime de tout mon cœur, papa. 3 lignes en tout, pas plus, mais c'était écrit noir sur blanc. Je t'aime de tout mon cœur.
Oh, Seigneur.
Et ça aussi, c'est une question qui me hante. Est-ce qu'il a écrit ce mot avant ou après avoir tué maman?
S'il vous plaît, Je sais pas pourquoi ni comment votre père a fait ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai rien à voir dans cette histoire. Vous vous trompez.
Il s'est couché le soleil derrière la colline où dominent les ruines du château.
Tu offres ton visage
à l'horizon.
Mes pensées t'accompagnent.
Dans le noir, tes yeux sont deux étoiles
dont je n'aurais jamais su
le nom.
Du vieux buffet, elle sort une bouteille de rhum de la marque Blackheart, cœur noir. Un alcool dont sa mère se servait une fois l'an, à Noël, pour relever sa recette de lait de poule. En s'en versant une généreuse dose, elle réalise qu'il n'y aura pas de lait de poule cette année. De sa vie, elle n'a jamais passé un Noël sans lait de poule, ni sans ses parents. Elle boit le rhum cul sec. Un frisson l'irradie. Elle tousse et ses seins tressautent sous le pull. Leurs pointes frottent contre le tissu.
C'était une chance extraordinaire. Inespérée, c'était une occasion en or. Vous voulez devenir propriétaire ? Posséder votre propre logement maintenant, c'est possible. C'est facile. Vous voyez les crédits sensationnels qu'on vous propose à des taux imbattables, une offre qu'on ne peut pas refuser. N'en rêvez plus. Faites-le. C'est comme ça qu'on leur a vendu le truc. La grande campagne pour l'accès à la propriété, les soi-disant facilités pour permettre aux plus modestes de s'acheter leur baraque. Ce serait peut-être pas un manoir sur Prospect Avenue, mais au moins ce sera à vous. Vos murs, votre toit, votre garage, à vous. Et ils y ont cru, bien sûr qu'ils y ont cru. Ils sont précipités. Ils ont plongé la tête la première, bien sûr. T'imagines pas ce que ça représente pour eux de pouvoir posséder leur maison. Propriétaire, ça c'est quelque chose. L'aboutissement de toute une ville. Mais si. En fait, si, tu t'imagines très bien, je suis bête. C'était calculé, ça aussi. Dès le départ, ça faisait partie du plan. On mise à la fois sur la crédulité des pauvres et sur leurs espérances, sur leurs rêves. Et ça marche. Ça marche à tous les coups. Mon père a plongé, pareil. Comme les autres. Je me rappelle comme il était fier. Comme il était heureux le jour où il a signé l'acte. Il n'en revenait pas. Une maison à lui, à sa famille. Il allait pouvoir finir ses jours avec sa femme, sous son propre toit. Et puis léguer ce bien à sa fille, pour quand il serait plus là. C'était sacrément important pour lui. On ne pourra pas dire qu'il aura trimé toute sa vie pour rien. Tous ces dragons contre lesquels il s'est battu. Ça valait le coup parce que il y avait ce papier au bout. Il avait signé. Il avait accompli quelque chose. Et ceci, grâce à qui ? Grâce au généreux crédit accordé par la Harvest Manhattan Chase ? Grâce à toi ?
N'importe quelle banque peut accorder un emprunt à des particuliers, ça fait partie de ses attributions, ce n'est pas propre à la Harvest.
C'est vrai.
C'était pas ce que vous avez l'air de croire. Il n'y avait pas de plan général et concerté destiné à piller les gens. Les banques ont eu des opportunités qui leur permettaient de prêter à des conditions favorables aux clients qui avaient les plus faibles revenus. Elles en ont fait profiter, c'est tout. Personne n'a forcé personne. Personne n'a cherché à voler personne. Et personne ne pouvait prévoir comment ça allait tourner.
C'est faux. Ne me prends pas pour une imbécile. L'avocat m'a expliqué. Vous avez joué. Vous avez spéculé. Vous leur avez fourgué des crédits pourris, en sachant très bien qu'au moindre petit déraillement, ils seraient incapables de les rembourser. Et vous avez encore magouillé. Vous avez créé de toutes pièces des montages financiers pour maquiller ces crédits pourris, les revendre, les rendre solvables, et les refourguer de nouveau à d'autres pigeons. Sur toute la ligne, vous avez triché. Ne viens pas me parler d'opportunités et de conditions favorables. Vous avez tout simplement joué avec les espoirs et les rêves des gens. Sans aucun scrupule. Vous avez joué avec leur vie. Et vous avez gagné.
Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous mélangez tout.
Mon père a tenu aussi longtemps qu'il le pouvait. Il s'est accroché. Il a raclé le moindre dollar qu'il avait réussi à mettre de côté. Il s'est privé de tout. Mais c'était perdu d'avance. Impossible de suivre des taux d'intérêt qui augmentent presque chaque mois. Comment tu veux faire ? Il ne pouvait plus. Et moi, pas un seul instant, je me suis doutée de ce qui se passait. Il ne m'a rien dit. Et puis, je suis sûre qu'il n'a rien dit à ma mère non plus. Il était tellement fier. Et vous, vous étiez tellement intraitable. Tu payes ou tu dégages. C'est la règle. Votre règle. La seule et unique règle avec laquelle vous ne trichez pas. Vous ne transigez pas. Aucun moyen d'échapper. Ils étaient arrivés au bout du bout. Ils devaient être expulsés à la fin du mois. C'est ça qui était prévu. Programmé. Il ne leur restait plus que quelques jours à vivre sous leur toit, qui en réalité n'a jamais été à eux, jamais. Mais mon père l'a cru. On y a tous cru. Alors qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse ? Voilà ce qu'il aurait dû annoncer à sa femme et à sa fille pour Noël. Voilà le cadeau qu'il aurait dû leur offrir. Un avis d'expulsion ? Tu crois vraiment qu'il aurait pu faire ça ?
Elle s'est mise à transpirer. Elle sent l'odeur du rhum, mais elle ne sait pas si elle émane de son palais ou des pores de sa peau.
C'est ce qui est arrivé à nos voisins. Ils sont partis, les uns après les autres, on les a chassés. Foutus dehors, tu payes ou tu dégages. Il suffit de jeter un œil autour et tu comprends tout dans le quartier. La moitié des maisons sont à vendre. Là, de ce côté, la maison est vide. De ce côté aussi, vide, à vendre. Tu sais quoi ? Mon père aurait pu tirer 50 coups de feu, personne ne les aura entendus, parce qu'il n'y a plus personne ici.
Elle le regarde. Il est beau. Malgré sa mine défaite et la morve sèche sous son nez, il est beau. L'espace d'un instant, elle l'imagine en train de lécher la sueur qui lui coule entre les seins. et elle retient in extremis un gémissement.
Ces hommes qui ont forgé le fer et l'acier pour vous, pour construire les buildings au sommet desquels vous trônez là-haut, dans vos bureaux. C'est sur leurs os, c'est sur leurs squelettes que vous êtes élevés. Et c'est sur leurs ruines que vous continuez à pousser.
Je ne dirige pas la Harvest. J'exécute simplement le travail qu'on me demande de faire. Je ne suis qu'un employé, un opérateur parmi des dizaines, des centaines d'autres.
Je sais.
Alors pourquoi moi ?
Tu es l'élu.
Écoutez, je peux vous dédommager.
Me dédommager ? Me dédommager ?
En partie, au
Mais
moins.
Mais quelle partie ? Tu pourrais me rendre mes parents ? Tu pourrais les ressusciter ? Ou seulement un des deux, c'est ça ? Mais lequel ? Mon père ou ma mère ? Et les voisins ? Tu pourrais les faire revenir aussi ? Tu pourrais les ramener dans leur foyer ? Tu pourrais leur redonner un toit et du travail ? Tu pourrais rouvrir les portes de la Syrie ? Est-ce que tu pourrais faire en sorte que le cœur se remette à battre ?
Je ne prétends pas pouvoir faire des miracles, mais je peux vous avancer l'argent afin de racheter l'hypothèque de la maison. Et solder le crédit une fois pour toutes. Vous pourrez conserver la maison de vos parents, elle sera à vous. Personne n'aura plus le droit de vous en déposséder. Je peux faire ça.
T'es gentil. Tu sais ce qu'ils en ont fait, l'usine ? Aujourd'hui, ils en ont fait une espèce de parc. Ils appellent ça un centre culturel et artistique. Il y a de la musique, des concerts, des grandes fêtes, où tout le monde boit et danse, tout le monde s'amuse. On peut visiter aussi, il y a un guide. Il y a tout un parcours. Tu prends ton ticket, on t'emmène faire le tour de la friche, tu peux voir ce qui reste des bâtiments, les ruines, et le guide t'explique en même temps. Il te raconte l'histoire de la Bethlehem Steel. Il y a même un petit train pour les touristes qui veulent pas se fatiguer.
Il la regarde. La large échancrure de son pull dévoile des seins pâles comme le marbre, luisants comme la glace. Il se détourne.
Qu'est-ce que vous attendez de moi ?
Je veux que tu m'épouses. Je veux devenir ta femme.
Ça ne dure qu'un quart de seconde, mais elle capte la lueur dans ses yeux. Il a failli pouffer. S'il n'avait pas été menotté, si elle n'avait pas été armée, il l'aurait fait. Il aurait ri. La bonne blague.
Je peux pas me marier avec vous. C'est impossible.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? T'es déjà marié ?
Non, mais...
Non ? T'es pas marié ? T'as même pas de petite amie ?
Qu'est-ce que vous en savez ?
Je le sais. Et je sais beaucoup de choses. Et je sais que tu as 28 ans et que tu travailles pour la Harvest Manhattan Chase depuis 3 ans, que tu possèdes un appartement de 225 m² sur Pine Street, 18e étage, et que tu fréquentes un club de sport 3 fois par semaine pour entretenir ton corps. Je sais que tu apprécies la cuisine italienne et que tu n'es pas marié.
Putain, mais depuis quand vous me surveillez ? Depuis combien de temps vous m'espionnez comme ça ?
Je me suis renseignée. C'est la moindre des choses, il me semble. Tu crois que je serais prête à épouser n'importe qui ?
Vous aviez pas le droit, c'est ignoble !
Tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi je t'ai choisi toi. C'est facile. Tu es jeune, beau, riche et célibataire. Qu'est-ce que j'aurais pu trouver de mieux ?
Oh, bon Dieu !
Puis il y a ton prénom aussi.
Mon prénom ?
Freddy. Le mien, c'est Fanny, tu comprends ?
Non.
Fanny et Freddy ? Comme Fanny Mae et Freddy Mac. Les géants du crédit. La reine et le roi des hypothèques. Un couple maudit, mais uni. J'ai trouvé que c'était un signe, une sorte de clin d'œil du destin.
Vous êtes...
Je suis quoi ? Triste ? Écœurée ? En colère ? Enragée ? Ben dis-le, vas-y. Qu'est-ce que je suis ? Folle ? Je suis complètement cinglée, c'est ça que tu penses ?
Elle se rapproche. Elle tend le bras vers son visage pour le caresser, mais elle ne peut que l'effleurer, car il esquive et se détourne.
Je prendrai soin de toi.
Il ferme et serre les mâchoires. Soutient son regard.
Frédéric Robert Olsen. Acceptez-vous de prendre pour épouse Fanny Adamski ? Et s'y présente ?
Elle attend. Elle espère. Elle croit peut-être qu'il hésite. Et brusquement, il remonte les genoux et projette ses deux jambes en avant. Ses pieds la percutent de plein fouet, juste en dessous des seins. Elle part en arrière, renverse la chaise et bascule avec elle. Dans sa chute, elle se cogne la nuque à l'angle de la table. Elle se retrouve allongée sur le sol, souffle coupé. Un voile opaque lui couvre la vue, en même temps que les rires éclatent. Elle reconnaît les rires enregistrés du Cosby Show qu'elle regardait lorsqu'elle était petite. Pendant quelques secondes, elle n'entend plus que ça. Les rires résonnent dans son crâne. Et comme naguère, elle est persuadée qu'ils lui sont destinés, qu'elle en est la cause et l'objet. La bouteille de rhum, déséquilibrée, roule sur le plateau au-dessus d'elle, puis tombe et vient s'échouer sur son ventre. Elle ne l'a pas rebouchée. Le liquide coule, s'infiltre entre les mailles de son pull, s'étale sur sa peau. Elle force pour se dresser sur les coudes. Sa main est vide. Le revolver lui a échappé, a glissé un peu plus loin sur le carrelage. Elle tourne la tête et voit le jeune homme debout, à demi courbé, aux prises avec les menottes et la chaise dans son dos, comme une singulière camisole dont il essaie de se débarrasser en secouant les bras. Elle s'accroche au rebord de la table et se relève. Elle tangue un court instant, puis se stabilise. Elle se baisse et saisit la bouteille par le goulot et s'avance vers lui. Elle est Minerve, la déesse guerrière. Au moment où elle arme son bras, le jeune homme se fige. Leur regard s'aimante. Il reçoit le coup sur la pommette et retombe droit sur sa chaise. Elle lève à nouveau la bouteille, prête à frapper une seconde fois, mais il ne bouge plus. Black Heart, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Elle halète, la main en l'air. Les dernières gouttes de cœur noir s'écoulent le long de son poignet.
Ami, voyage au large, sur des crêtes arachnéennes. Voyage léger. Demande-toi, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine?
Il se réveille, assis au milieu de la cuisine. Il ne s'est pas absenté longtemps. Le côté gauche de son visage le lance. Un stigmate de couleur rosâtre. Il dodeline de la tête, puis il rouvre les yeux. Elle est là, debout face à lui. La pièce est saturée d'effluves de rhum. Elle est toujours là. Elle a récupéré le petit revolver Smith & Wesson. Elle a pris soin de balayer sa mèche pour qu'elle tombe pile à la lisière des cils. Elle le regarde. Elle le contemple. Elle lui laisse tout le temps de reprendre ses esprits. Puis, elle dit...
Frédéric Robert Olson. Acceptez-vous de prendre pour épouse Fanny Adamski, ici présente.
Le jeune homme se met à trembler. Sa face pivote avec une extrême lenteur, d'un côté, de l'autre. L'air éperdu. Ses lèvres remuent en silence. Comme s'il se remémorait une leçon, comme s'il se récitait une prière.
Oh Seigneur.
Elle attend. Puis elle se penche un peu plus et répète.
Frédéric Robert Olsen. Acceptez-vous de prendre pour épouse Fanny Adamski, ici présente.
Il s'immobilise totalement. Cela dure quelques secondes. Après quoi, il relève la tête et plonge dans le vide de son œil droit, fabriqué à Sanford, Caroline du Nord.
Oui.
Elle le regarde. Elle le contemple. Une larme solitaire perle sous sa paupière gauche et glisse sur sa joue.
Je suis tellement heureuse.
Elle lui sourit. Puis elle dirige le canon du revolver vers ses jambes. Et lui tire une balle dans chaque genou. Minuit a sonné à la Central Moravian Church de Bethléem. Le jeune homme crie, il hurle, il appelle. Il pourra toujours crier, hurler, appeler. Personne ne l'entendra. Autour, les gens sont partis. Les maisons sont vides.
I want you, you, you. All I want is you, you, you. All I want is you. Give you stars above, sun on the brightest day. Give you all my love. If only you would say that I want you, you, you. All I want is you, you, you. All I want is you.
Vous venez d'entendre Fanny et Freddy de Marcus Malte avec Céline Salette, Fanny, Sébastien Poudrou de la Comédie Française, Freddy, Éric Hirson-Macarel, le narrateur, et Tiphaine Rabou-Fournier, le chœur. Bruitage, Sophie Bissance. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier, Valentin Azanzielinski. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Baptiste Guiton. Fanny et Freddy de Marcus Malte est publié aux éditions Zulma.